Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à la Coupe du Monde 1950, qui s'est déroulée pour la première fois au Brésil. Le match de football Brésil-Uruguay est la dernière rencontre de la poule finale de la Coupe du Monde de football 1950, décisive pour l'attribution du titre mondial, et oppose les deux premières équipes au classement, les seules encore en lice pour le titre. Par conséquent, il est considéré comme la finale de la Coupe du Monde 1950. Le match se déroule au stade de Maracanã, de Rio de Janeiro, au Brésil, le 16 juillet 1950, devant une affluence record de près de 200 000 spectateurs. L'Estadio de Maracanã a été conçu par une équipe de 7 architectes brésiliens. C'est la plus grande arène sportive jamais construite. Cas unique dans l'histoire des Coupes du Monde, la compétition de 1950 se déroule en effet en formule championnat, avec des poules, sur deux tours, et ne comprend donc pas de match à élimination directe. Le vainqueur de cette Coupe du Monde est celui qui termine en tête du classement de la poule finale à la fin de la compétition. Les deux sélections qui jouent ce match, le Brésil et l'Uruguay, sont séparées d'un seul point. 4 points pour le Brésil, 3 pour l'Uruguay, au moment du coup d'envoi. Pour être sacré à domicile, le Brésil peut se contenter d'un match nul, tandis que l'Uruguay est dans l'obligation de gagner pour soulever à nouveau la Coupe Jules Rimet. C'est la différence essentielle avec une finale classique. Il n'y a pas de prolongation possible. Le titre est attribué de manière certaine dans tous les cas après 90 minutes. Le Brésil aborde ainsi la rencontre en confiance avec un léger avantage. La victoire de l'Uruguay par 2-1, malgré l'ouverture du score des Brésiliens, est considérée comme l'une des grandes surprises de l'histoire du football. Ce match est connu au Brésil comme le Maracanazo, le choc du Maracanã, est encore vécu comme un drame par la nation brésilienne, qui depuis n'évolue plus en blanc, mais en jaune et vert. Retour sur cette finale de 1950. À la mi-temps, le score est toujours de 0-0. Les Brésiliens se sont procurés 17 occasions, tandis que les Uruguayens se sont contentés de bien défendre. 2 minutes après la reprise, les Uruguayens cèdent. Zinho sert à Demir, qui centre pour Friaca, qui marque le premier but brésilien de la rencontre. Le Maracanã est en ébullition. Les Brésiliens, qui peuvent se contenter d'un nul, mènent au score et se rapprochent du titre. À la 61e minute, Ademir tente d'obtenir un pénalty par la ruse après un contact avec un de ses coéquipiers dans la surface de réparation du gardien uruguayen Roque Maspoli. Mais l'arbitre, Jorge Raider, ne se laisse pas berner. Comme une sorte de justice immanente, les Brésiliens sont punis 5 minutes plus tard par le but égalisateur de Chiafino, qui fait douter le Maracanã. Les Uruguayens démontrent qu'ils sont eux aussi capables de marquer et donc de gagner. Au lieu de jouer la prudence en se repliant en défense pour conserver un nul qui leur donnerait le titre mondial, les Brésiliens repartent à l'assaut des cages de Maspoli à la 70e minute. À la 79e minute, après 1-2 avec Pérez, Didia trompe Barbosa, le gardien brésilien, et donne l'avantage à l'Uruguay. Le précédent but avait fait douter le Maracanã, celui-ci le fait taire. Il reste une dizaine de minutes à jouer, l'équipe brésilienne est sonnée et ne parvient pas à revenir au score. L'Uruguay bat finalement le Brésil 2-1 et remporte, comme l'Italie 12 ans plus tôt, son 2e titre mondial en 2 participations. La défaite du Brésil à domicile a des conséquences humaines immédiates, puisqu'elle entraîne une vague de suicides dans tout le pays, ainsi que dans le stade, où au moins un supporter se serait donné la mort en se jetant du haut des gradins après le coup de sifflet final. personne n'avait envisagé que le Brésil, soutenu par tout un peuple, puisse être battu sur son terrain par l'Uruguay, même si l'équipe uruguayenne, la Celeste, avait déjà démontré sa capacité à répondre présent lors des grands rendez-vous en remportant 2 titres olympiques ainsi que la première Coupe du Monde 20 années auparavant. Pas même Jules Rimet, président de la FIFA et inventeur de la Coupe du Monde, qui ne s'était pas préparé pour une cérémonie consacrant une victoire uruguayenne. Jules Rimet avait prévu un discours en portugais, mais il doit finalement se frayer un chemin dans la foule pour remettre en catimini le trophée au capitaine de la sélection uruguayenne, le numéro 5, Obdulio Varela. Marcos Guterman, auteur du livre « O football explica o Brasil », traduction « Comment le football explique le Brésil », décrira le Maracanazo comme une tragédie raciale. Une analyse qui est également partagée par le champion du monde 1970, Paulo César. En effet, après la défaite face à l'équipe d'Uruguay, composée exclusivement de joueurs blancs, les joueurs noirs servirent de bouc émissaire et furent désignés comme responsables de la défaite, si bien qu'à la Coupe du Monde 1954, l'équipe du Brésil ne comptait presque plus aucun joueur noir ou métis. Traumatisée, l'équipe du Brésil ne disputa aucun match pendant 2 ans et ne refoula la pelouse du Maracanã qu'en 1954. Mais c'est bien le gardien noir, Moacir Barbosa, dont l'anticipation sur le but de Djiglia a été fatale à la Seleção, qui sera l'objet des plus vives critiques. Celui qui était encore considéré comme le meilleur gardien du monde en activité avant le match terminera sa vie en paria. Moacir Barbosa Nascimento, dit Barbosa, surnommé l'Express de la Victoire, est né le 27 mars 1921 à Campinas. Après avoir évolué dans des petits clubs, Barbosa rejoint le club de Regatas, Vasco de Gama. Il s'affirme comme l'un des meilleurs gardiens de but du monde. Il remporte le championnat Carioca à 6 reprises, ainsi que le championnat sud-américain des clubs champions de football en 1948. Il fait ses débuts en équipe du Brésil en 1945, remportant 4 ans plus tard la Copa América. Il est notamment reconnaissable car il est l'un des premiers gardiens noirs de l'équipe du Brésil et parce qu'il ne porte pas de gants de protection. Il faudrait attendre aussi le milieu des années 1990 pour revoir un gardien de but noir en équipe du Brésil. Dida, lointain successeur de Barbosa, serait d'ailleurs un des premiers à réclamer publiquement une réhabilitation du paria. C'était avant la Coupe du Monde 2006, 6 ans après la mort de Barbosa, qui n'aura pas eu le loisir d'entendre ces paroles réconfortantes. Dida, gardien remplaçant de l'équipe du Brésil en 1998 et 2002, a dit « Il est temps aujourd'hui de briser un tabou qui dure depuis plus de 50 ans. Barbosa a fait de grandes choses pour le football brésilien, mais après ce match, il a été crucifié. C'est quelque chose de terrible. Il faut souligner tout ce qu'il a apporté à notre sélection. » Barbosa ne sera jamais réhabilité de son vivant, puisque décédant en 2000 des suites d'une insuffisance respiratoire, il déclara peu avant sa mort. Au Brésil, la peine maximale pour un crime est de 30 ans. Moi, je paie depuis plus de 43 ans pour un crime que je n'ai pas commis. Seule la cuisante défaite du Brésil face à l'Allemagne, 7-1, au Mineirão de Belo Horizonte en demi-finale de la Coupe du Monde 2014, suffira à faire oublier le but encaissé par Barbosa, lavant par la même occasion l'honneur du portier brésilien. L'équipe allemande a balayé le Brésil dans une première mi-temps si déconcertante qu'elle en était à peine croyable. En l'espace d'une demi-heure, les Allemands avaient marqué 5 buts et les Brésiliens n'étaient pas juste abasourdis, ils tenaient à peine debout. Plus tard, certains joueurs allemands ont avoué qu'ils avaient décidé à la mi-temps d'y aller doucement avec les Brésiliens, de peur de les humilier sur leur propre sol. Mais ils continuaient. 2 buts de plus suivaient après la pause. Et quand Oscar marquait un but de consolation à la fin du match, l'humiliation était totale depuis longtemps. Le score de 7-1 était non seulement le plus grand nombre de buts inscrits en demi-finale, mais aussi la plus grande défaite du Brésil à domicile en compétition officielle depuis 1975.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.